avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines à l'occasion du nouveau sommet Afrique-France à Montpellier. Nous parlons aujourd'hui de l'emploi des jeunes. Sur un continent où 60% de la population a moins de 24 ans, la démographie fait de l'emploi des jeunes un enjeu majeur dans les pays africains. À l'horizon 2030, 30 millions de jeunes sont attendus chaque année sur le marché du travail. Dans ce contexte, comment revaloriser la formation professionnelle et technique pour améliorer l'employabilité des jeunes? Quels sont aussi les secteurs, les métiers d'avenir à développer en priorité sur le continent? Nous allons en discuter avec nos invités. Virginie Lucas, responsable équipe projet formation professionnelle, insertion emploi, entrepreneuriat, ça fait beaucoup de choses, à l'Agence française de formation, de développement, l'AFD. Bonjour Virginie Lucas.
Bonjour.
Timothée Toury, vous êtes également avec nous dans le studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur délégué de l'Université de technologie européenne, enseignant-chercheur à l'Université technologique de Troyes, dans l'Est de la France, école d'ingénieurs française qui travaille avec des écoles d'ingénieurs et de techniciens, notamment au Cameroun, au Sénégal, au Togo. Et quant à vous, les voisins et les voisines, parlez-nous de vos difficultés pour trouver un emploi, de vos parcours, mais aussi de vos réussites. Appelez-nous sur le compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et vous pouvez aussi nous écrire sur notre fil Twitter, 7 milliards RFI. Vous êtes plus de 40 000 à nous suivre désormais. Merci beaucoup à vous tous. Je lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Modeste, il a 30 ans, il est au Bénin. Après mon bac B, j'ai suivi une formation en audiovisuel et communication. Je suis devenue cadreur, nous dit Modeste. J'ai pas trouvé de travail suite à cette formation. J'ai voulu me lancer dans l'élevage et puis faire une école d'électricité, mais je n'avais pas les moyens. Et j'ai finalement trouvé un patron qui me forme de façon accélérée pour que je devienne électricien. Voilà, un exemple de parcours. Virginie Lucas, vous pouvez commenter brièvement. Je lirai d'autres témoignages.
Oui, alors effectivement, Modeste a choisi sans doute un secteur dans lequel le nombre d'emplois est relativement limité.
Ouais, ce qui ne veut pas dire l'audiovisuel, la communication.
Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas en expansion dans les pays africains et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'ait pas de compétences ou de qualité pour le remplir. Simplement, effectivement, il y a des sujets de réseau, d'avoir du réseau, etc., pour trouver un emploi dans ce type.
Et il termine finalement, faute de moyens financiers, avec le système D, un patron qui le forme de façon accélérée pour devenir électricien. Ça ne veut pas dire qu'il sera mal formé.
Ça ne veut pas dire qu'il sera mal formé, parce que l'apprentissage traditionnel, je dirais, c'est-à-dire non formel, qui est basé sur une relation entre un patron et un jeune qui veut apprendre, c'est quand même un des modes de formation professionnelle les plus répandus sur le continent et qui donne des professionnels de qualité. Ouais. Simplement, ils ne sont pas reconnus.
Alors, un autre message de Bruce qui est à Brazzaville, au Congo. L'absence et le manque de soutien de la formation technique restent l'une des causes majeures du chômage et de l'auto-occupation. Les États africains doivent revoir les programmes, les compétences nécessaires, les infrastructures, les budgets alloués. L'objectif, c'est de diversifier les formations techniques et de les rendre hautement qualifiantes. Vous êtes d'accord avec ça, Timothée Toury ?
Malheureusement, je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit. La seule question que je me pose, et la seule question que nous nous sommes posées dans les projets qu'on accompagne en Afrique, c'est qui doit penser les programmes ? Est-ce que c'est au niveau des États qu'on doit penser les programmes ? Ou est-ce que ce sont les écoles en relation avec le secteur professionnel et les étudiants pour avoir quelque chose de vraiment adapté à une réalité.
La parole aux entrepreneurs également, bien sûr. Ousmane a 22 ans, il est étudiant en première année de licence de géographie et apprenti peintre à Ouagadougou, Burkina Faso. J'ai commencé l'université l'année dernière, nous dit Ousmane, mais parallèlement, en effet, je suis apprenti peintre chez un patron parce que j'ai peur d'être au chômage après mes études. De mémoire, je crois qu'on a à peu près les trois quarts des étudiants de l'université publique au Burkina qui sont dans des filières de sciences humaines, dont la géographie. Alors, mauvais choix ou bon choix de faire les deux en espérant que l'un des deux marche et qu'il débouche sur de l'emploi. Virginie Lucas, apprenti peintre ou futur géographe ?
Alors, je peux quand même pas souscrire à l'idée que faire des sciences humaines serait quelque chose d'inutile pour la société, y compris au Burkina. Simplement, je pense que c'est un principe de réalité par rapport au marché du travail.
Ouais. Il serait étudiant en informatique, il serait pas apprenti peintre en parallèle.
Sans doute pas, mais ça ne veut pas dire que pour autant ce serait si facile d'intégrer une entreprise, parce que les systèmes de stage ou d'apprentissage de type dual, c'est-à-dire en alternance, sont assez peu développés et permettent peu de professionnaliser des compétences entre guillemets livresques qu'on aurait pu avoir au niveau de la formation initiale.
Alors en tout cas, vous pouvez continuer de nous téléphoner, les voisins, les voisines, pour nous parler de vos parcours au 33 7 64 45 51 41. Aujourd'hui, on parle de l'emploi des jeunes, des formations techniques et professionnelles sur le continent africain.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Et tout de suite, je vous propose d'écouter le parcours de Narcisse, qui a 23 ans. Ce jeune Tchadien, N'Djamena, a pu bénéficier du programme Bal à la Malle, un projet d'insertion professionnelle développé au Tchad par l'ONG Essor, soutenu par l'AFD. Pour Narcisse, comme pour des millions de jeunes, tout a commencé dans la galère. Aujourd'hui, il est embauché dans une pâtisserie de la capitale. Raphaël Constant a recueilli son témoignage.
Quand j'avais à l'âge de 9 ans, mon oncle, côté paternel, m'a récupéré. Quelques années plus tard, il dit, bon, tu es déjà majeur, donc il est temps pour toi que tu prennes tes propres responsabilités. Alors j'étais complètement désespéré. J'ai dû arrêter avec les études et je faisais aide-maçonnerie dans les quartiers pour pouvoir subvenir à mes petits besoins. La pâtisserie, c'est un métier que les gens négligent beaucoup. Ils disent que c'est un métier des femmes. Mais je me suis dit, non, je dois essayer d'abord voir. J'ai l'habitude de suivre la télévision. Je vois comment les gens ils font les gâteaux, ils font la décoration et tout ça. Je me suis dit, est-ce possible que je puisse un jour, moi également, faire ces gâteaux-là et puis du coup les décorer comme ils le font.
Et quel type de formation professionnelle vous avez suivi et combien de temps ça a duré?
C'est une formation en apprentissage. Du coup, lorsqu'on a fini avec la formation, ils nous ont cherché les stages. Le premier coin où ils m'ont trouvé, c'était une longue distance. Souvent, je quitte à la maison ici à 5 heures, des fois à 6 heures, pour arriver là-bas à l'heure. Et je finis là-bas des fois à 22 heures. J'arrive ici des fois à 1 heure du matin. Et un jour, mon oncle m'a appelé. Il me dit, mais toi, tu ne peux pas continuer de cette manière. C'est trop risqué. Je lui dis, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas un manque de respect, mais ce qui est là, c'est une opportunité pour moi d'avoir un métier. Et je me suis forcé. Et après quoi, la pâtisserie Blangerie Amandine, ils m'ont appelé et ils ont dit il faut que je commence mon stage avec eux. C'est 2 mois de stage.
Vous en pensez quoi cette formation?
En formation au Bab al-Amal, ils nous apprennent comment se conduire dans une société, se prendre en charge et respecter les uns les autres. Ils nous ont expliqué que dans un lieu de travail, surtout dans notre domaine, c'est pas du tout facile, la pâtisserie. C'est un métier où ça demande la rapidité. Ça demande celui-là qui est dynamique. Tu dois respecter tes collègues, tes chefs. Même si le boulot est dur, tu dois essayer de t'adapter avec le rythme du travail. Et on a fait 2 mois de théorie, 1 mois de pratique. C'était pas vraiment suffisant. Alors déjà en stage, c'est de là qu'on a commencé à apprendre comment faire les gâteaux, comment monter un gâteau d'anniversaire. Comment faire le pain, voilà, c'est un peu ça.
Est-ce que ça a été difficile pour vous, Narcisse, de trouver une entreprise pour votre stage?
Après ma formation, j'ai chômé d'abord pendant 3 mois à la maison sans stage. Parce qu'ici au Tchad, le métier pâtisserie-boulangerie, ce n'est pas tellement développé ici au Tchad. On a seulement que 3 ou 4 pâtisseries qui sont fonctionnelles et reconnues. Mais à mon avis, nos techniciens se sont donné corps et âme pour nous trouver quand même des stages. Et pour cela, j'en suis vraiment reconnaissant envers eux.
Donc si je comprends bien, vous avez été diplômé au bout de 6 mois.
Oui, actuellement je suis en insertion à l'Amandine. Après mon stage, ils m'ont maintenu à l'Amandine. Donc ça fait déjà 1 an et 7 mois que je travaille déjà à l'Amandine.
Est-ce que vous vous sentez armé face au marché de l'emploi après cette formation?
Ce n'est pas vraiment suffisant puisque c'est une formation à durée de 3 mois. Ce n'était pas vraiment suffisant pour être dans le marché d'emploi. J'aurais préféré qu'ils ajoutent au moins 1 an ou même si c'est 9 mois, c'est bien. Et voilà comme moi, l'Amandine m'a pris. Je m'adapte au fur et à mesure, je me renseigne. Je m'approche d'eux et puis je leur demande qu'est-ce que vous faites ça? Vous faites ça là comment? Et puis voilà, ce sont aussi mes aînés. Et ils me donnent la recette. Ils m'aident aussi à comment procéder. Je suis vraiment fier pour ce que je suis aujourd'hui grâce à ces projets. Et pour être vraiment honnête avec vous, je ne m'attendais surtout vraiment pas à avoir du boulot, gagner à la fin de mois une somme qui me permet de subvenir à mes petits besoins. Et voilà que ce projet m'a ouvert la porte aujourd'hui. Et j'en suis vraiment fier.
On parle de l'emploi des jeunes aujourd'hui sur le continent africain, de la nécessité d'avoir des formations techniques, professionnelles. On a besoin d'emplois qualifiés sur le continent. Appelez-nous pour nous parler de vos difficultés d'insertion professionnelle et de vos réussites sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. N'attendez pas la fin de l'émission pour passer en direct. Vous avez entendu le témoignage de Narcisse. Son rêve, c'est d'ouvrir un jour son propre commerce. Pour l'instant, sa paye est modeste, 60 000 francs CFA par mois, c'est à peu près 91 euros, c'est l'équivalent du salaire moyen au Tchad, où les moins de 25 ans représentent 70% de la population. On voit bien l'ampleur du défi. Les trois quarts des jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi arrivent sans avoir achevé le cycle primaire. Virginie Lucas, vous appartenez à l'Agence française de développement. Le programme Babalamal de l'ONG Essor est soutenu par l'AFD. Il faut passer un test pour être éligible à ce programme, parce qu'évidemment le nombre de places est limité. Et on voit bien aussi tout le problème par rapport à la démographie et au nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi.
Bien sûr, 30 millions de jeunes à peu près arrivent sur le marché de l'emploi en Afrique chaque année. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout à l'échelle des besoins. Je ne parle pas de l'AFD, mais en général de l'offre publique et privée d'enseignement en Afrique. Sur Babalamal, il y a 5000 jeunes bénéficiaires. Donc évidemment, il y a une sélection et ce sont tous des jeunes vulnérables. Ce que montre, je pense, le témoignage de ce jeune, c'est vraiment qu'il faut diversifier les modes de formation. Il ne faut pas plaquer aucun modèle, quel qu'il soit, sur les réalités africaines et du marché du travail de ces pays. Là, la question, c'est qu'il a eu une formation courte, insérante et certifiante, c'est-à-dire reconnue par le monde professionnel dans lequel il va travailler, qui lui permet d'avoir accès aussi à un certain niveau de rémunération. Et puis, il a parlé aussi de toute cette formation en ce qu'on appelle les soft skills ou les compétences sociales.
Le savoir-être, comment
se comporter
aussi. Le savoir-être
en entreprise, en équipe, vis-à-vis des clients. Et ça, ce sont des éléments qui étaient très peu valorisés, en fait, dans la pédagogie en Afrique. Mais on peut dire également en France aussi, jusqu'à récemment, et peut-être encore dans certaines formations. Or, ce sont des éléments très, très importants, en fait, pour l'insertion de ces jeunes au travail et dans la société en général.
L'emploi des jeunes, c'est vraiment un des sujets majeurs pour l'Agence française de développement concernant l'Afrique. Vous diriez que quelles sont les problématiques communes à presque tous les pays subsahariens et puis les spécificités aussi pour les États les plus en difficulté ?
Sans doute l'absence de diversification des économies. Hein. On a vraiment besoin, ils ont vraiment besoin de développer une production de richesses et de valeurs localement. On pense notamment à tous les enjeux sur la valorisation, la transformation des produits agricoles, puisque beaucoup de pays sont effectivement riches, en théorie, de ce côté-là. Il y a cette question de l'inadéquation entre la demande de compétences du marché du travail et l'offre de production de compétences, je dirais, du système public et privé de formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est un des moyens effectivement, de développer l'employabilité de ces jeunes, mais ce n'est pas le seul. On a notamment tout le travail qui peut être fait par les services publics de l'emploi, s'ils ont une offre de service qui convient en stage, en chantier école, en travaux à haute intensité de main-d'œuvre, en apprentissage également, la rénovation de l'apprentissage traditionnel pour sécuriser le jeune et sécuriser également la qualité de la formation qui lui est donnée. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, notamment au niveau du Tchad. Également le financement de la formation professionnelle, parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Les États, finalement, financent assez peu ces secteurs sociaux.
Or, c'est coûteux. Souvent, il faut du matériel, il faut des machines. Et les lycées professionnels, y compris dans un pays comme la France, ça coûte cher. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique a trop vite abandonné finalement ce mode de formation, lycée professionnel ?
Non, je ne pense pas. Ça existe et l'AFD participe à financer ce genre d'investissement comme d'autres partenaires et comme les États. Simplement, comme vous le dites, le coût unitaire de la formation est relativement élevé.
Quand vous dites coût unitaire, c'est par tête d'élève. Hein.
Tout à fait. Mais le coût de l'inaction est extrêmement élevé et notamment avec les partenaires ivoiriens, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Quel est le coût de l'inaction vis-à-vis de ces jeunes en défaut d'insertion par la suite en termes de santé, de sécurité, de chômage, de coûts sociaux, y compris pour les familles. Donc c'est vraiment un calcul intéressant à faire, pas seulement en Afrique, je pense en France également.
C'est ça, laisser des jeunes, laisser des talents qui ne peuvent pas se développer, qui accumulent des rancœurs, des amertumes, parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement se réaliser leur destin, Timothée Toury.
Oui, et la conséquence, c'est qu'on crée de la frustration dans une jeunesse qui pensait qu'avec une licence ou un master, par exemple, prenez l'exemple en sciences humaines, un emploi et un emploi très qualifié allaient leur être accessibles. Il y en a quelques-uns, mais bien en deçà de la quantité, en réalité, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, on crée une jeunesse frustrée et la frustration, c'est une bombe sociale. Donc, en effet, le coût de l'inaction est énorme. Il est énorme économiquement, mais il est aussi énorme sociologiquement à terme.
Ouais, et vous allez voir, hein, les jeunes, malgré les difficultés, se battent, changent de filière pour arriver à s'insérer. Écoutez le témoignage de cet ancien étudiant à l'université du Burkina Faso qui a changé de voie pour trouver du travail. Il est dans la deuxième ville du pays, Abobo-Dioulasso, la capitale économique.
Je m'appelle Boubacar Somé, depuis Burkina Faso et précisément à Abobo Dioulasso. J'aurai bientôt 29 ans. Voilà, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2016. Après ça, j'ai fait 2 ans à l'université au niveau des maths, physique et informatique. Après, j'ai fait un transfert, je suis allé en sciences biologiques. J'ai fait également 2 ans là-bas. Après ces 2 ans, j'ai fait une année blanche. Voilà, et 2020-2021. Je suis allé m'inscrire à l'école supérieure des métaux ferroviaires qui est basée à Bobo-Dioulasso. Et là-bas, nous étudions les matériels et traction. Et nous sommes censés faire 2 ans de formation professionnelle. À l'issue de ces 2 ans-là, nous sommes appelés à être des employés de cette compagnie ferroviaire. Voilà. Et à défaut de cela, nous pouvons effectuer d'autres activités qui concernent les installations et la maintenance dans les autres usines qui peuvent être la Brakina, Sosico, SNCTech et bien d'autres. Et cette formation, ça dure 2 ans.
Voilà, on critiquait les sciences humaines tout à l'heure, Virginie Lucas, mais voilà un exemple d'un étudiant qui est bien parti dans des sciences dures à l'université à Abobo-Dioulasso et qui, malgré tout, a été obligé de bifurquer pour arriver dans une formation payante et travailler ensuite sur des matériaux ferroviaires.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir un certain niveau de qualification, y compris technique, n'est pas non plus l'assurance, pour plein d'autres raisons, d'avoir une employabilité totale. Hein. C'est aussi compliqué parce que ce sont des métiers qui sont demandés, mais certainement pas à l'échelle des compétences offertes. Je pense que ce qu'il dit traduit bien aussi le fait que le secteur privé qui n'est pas non plus la panacée, hein, ni la solution unique, mais essaie également de produire une offre de formation, en tous les cas, qui, vous l'avez souligné, est payante, c'était un sujet, qui soit capable de produire les compétences dont ils ont besoin dans leurs entreprises. Et c'est tout le sujet des fonds de financement de la formation professionnelle dont on appuie parfois à l'AFD le développement dans certains pays, je pense à Madagascar où ça a été fait récemment, pour que le secteur privé puisse s'exprimer sur ses besoins et au-delà de ça, à travers une fiscalité, pouvoir participer à la formation continue des employés et à l'apprentissage.
Mais pourquoi l'université n'est pas capable de le faire, ça, plutôt que de faire des enseignements très généraux, Timothée Toury?
Est-ce qu'on lui demande de le faire? C'est déjà la première question, je pense. Qu'est-ce qu'on attend de l'université? Est-ce qu'on s'est posé un jour la question, justement, du rôle de l'université, non pas au-delà simplement, je vais me permettre, d'occuper des jeunes pendant quelques années parce qu'au moins ils sont assis sur un banc, quand bien même il y a suffisamment de place pour les accueillir dans les amphithéâtres? Est-ce qu'on s'est posé aussi cette question-là? Mais vers où vont-ils? Est-ce qu'on leur donne un diplôme pour qu'ils trouvent un emploi? Première question. Vous parliez des sciences dures, mais des sciences dures, pourquoi faire? Quelles sciences dures? Les sciences dures ne s'appliquent pas du jour au lendemain. Il y a tout un travail ensuite à faire pour qu'on puisse avoir des compétences techniques, des compétences technologiques. Et puis, La question à la fin, si on la repose plus globalement, c'est une question de développement général de l'économie. Est-ce qu'on attend d'une université ou même d'une école d'ingénieurs qui va très bien placer ses étudiants ? En Afrique, ça se passe souvent très très bien pour ces écoles-là. Mais est-ce qu'on attend qu'elle place uniquement ses étudiants ? Ou est-ce que ce soit un acteur qui tout doucement structure l'économie, la capacité de production du pays ? Est-ce qu'on forme des jeunes pour qu'ils structurent économiquement et technologiquement le pays ?
Sous-entendu en devenant eux-mêmes des entrepreneurs dans ces cas-là ?
Des entrepreneurs, des gens qui rentrent dans les entreprises existantes et qui leur permettent de se mettre à jour, d'exporter plus, d'offrir finalement le développement d'un secteur secondaire dont l'Afrique a absolument besoin.
On repart au standard. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Daniel nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Daniel, vous avez dit au standard que vous êtes au chômage.
Exactement, c'est ça.
Vous avez un petit boulot quand même ?
Je suis toujours au chômage depuis 2012.
Donc vous ne travaillez pas du tout, du tout ?
Du tout, rien. Je ne fais rien, à part quelques travaux d'ouvriers ou bien de manœuvres que je fais sur de petits chantiers pour de particuliers, c'est rien du tout.
Quel est votre parcours ?
Bah, en fait, en 2008-2007, je devrais passer normalement en première A.
Oui.
Mais après l'admission, mes parents m'ont dit les études longues ne garantissent pas l'avenir, raison pour laquelle ils vont me trouver une place au lycée. Là, j'irai faire l'électricité et puis pour pouvoir subvenir vite à mes besoins, quoi.
D'accord. Donc, vous êtes parti en filière professionnelle et sans passer le bac, hein, on est bien d'accord.
Oui, sans passer le bac, parce que j'avais déjà le niveau 3e. Et là-bas, j'ai repris la seconde et trois ans après, j'ai pu m'en sortir avec le CAP en électricité industrielle.
Et avec ce CAP en électricité industrielle, comment se fait-il que vous ne trouviez pas de travail ?
La différence, c'est que l'électricité industrielle est différente de l'électricité domestique parce que on nous a juste formé sur l'électricité, comment travailler en usine, les machines, les moteurs, tout ça. Alors que si tu descends au plus bas, chez les électriciens domestiques, quand on leur dit que nous sommes électriciens, que nous avons fait le lycée, carrément, ils nous mettent à part pour dire que nous, on ne maîtrise pas la pratique et que c'est la théorie que nous avons appris et qu'ici, c'est différent. Donc, c'est ça.
Ouais. Malgré un CAP, normalement, c'est une formation quand même très pratique, mais peut-être aussi qu'il n'y a pas d'usine suffisante en grand nombre pour embaucher des électriciens diplômés en électricité industrielle.
C'est le vrai problème. Oui, c'est le vrai, c'est le gros problème, quoi.
D'accord. Et vous n'êtes pas susceptible d'être embauché chez un entrepreneur en bâtiment qui travaillerait pour des particuliers, donc, si j'ai bien compris.
Oui, à moins que j'aille me faire former encore pour 6 mois chez eux avant de recevoir la main pour pouvoir exploiter sur le terrain. Sinon, pas plus tard, il y a 3 semaines, j'ai été quelque part pour pouvoir être embauché, mais ils nous ont demandé si on a fait l'électricité, bâtiment ou industriel. Quand j'ai dit industriel, ils ont refusé.
Ouais. Bon, Daniel, accrochez-vous. Hein. De toute façon, vous allez finir soit par refaire un morceau de formation, soit par vous insérer. Qui veut commenter le parcours de Daniel ? Parce que c'est très intéressant ce que vous expliquez, Virginie Lucas.
Oui, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il dit qu'il est au chômage depuis 2012, mais la notion de chômage, elle est très relative dans les pays africains. On parle plutôt de sous-emploi que de chômage parce que les gens, évidemment, depuis 2012, bien entendu, qu'il a dû travailler pour générer des revenus. Et pour participer aux frais de la famille. C'est intéressant parce que, effectivement, ce CAP, c'est une certification du monde professionnel. Donc, effectivement, ça devrait l'amener à trouver du travail.
C'est un métier technique.
C'est un métier technique, mais dans une filière. Il y a peu d'industrie au Bénin. Mmh. Donc, il y a peu besoin d'électriciens industriels. Et ça pose la question de la formation aussi tout au long de la vie. C'est-à-dire, ça, c'est un grand mot et ça paraît bien sophistiqué, mais la réalité, c'est comment on peut se reconvertir. Il y a
avec
au Bénin...
Avec une bonne base quand même,
oui,
là, des vraies connaissances techniques.
Il y a une agence nationale pour l'emploi au Bénin. Quelle est son offre ? Qu'est-ce qu'elle offre comme accompagnement quand quelqu'un est dans sa situation, dans la situation de Daniel, et dit « moi j'ai une base de formation, je suis sûre que si on m'aide peut-être à créer une petite entreprise dans un domaine particulier avec une formation courte qui le permettrait de se réorienter, il a certainement une bonne base pour y arriver. Il semble volontaire dans son discours. La question, c'est comment on accompagne ces jeunes de manière adaptée.
Merci en tout cas à Daniel pour ce témoignage. En 20 ans, les progrès de l'éducation sur le continent africain sont évidents, sont visibles. On l'entend d'ailleurs avec les auditeurs qui nous appellent. En principe, dans le reste du monde, plus on accède au secondaire et au supérieur, plus on trouve facilement un emploi. Est-ce que c'est vraiment le cas pour l'Afrique, Virginie Lucas?
C'est difficile d'avoir des chiffres précis parce que bon, les statistiques sont toujours contestables. Ça dépend des filières, c'est exactement ce dont on vient de discuter. Ça dépend des filières. Et puis, il y a un certain nombre de filières, notamment, je pense à tout ce qui mène à l'enseignement ou à des emplois publics qualifiés avec des responsabilités et pourtant des revenus qui sont assez limités et qui font que parfois, on fait quelques années dans la carrière et ensuite, on essaie de trouver à s'employer dans le secteur privé. Donc ça, c'est un vrai sujet.
Mais on a l'impression que l'Afrique n'est pas récompensée de ses efforts, finalement. Timothée Toury.
Je ne sais pas ce qu'il faut appeler effort. Que les Africains, quotidiens, pour vivre ou parfois survivre malheureusement, fassent des efforts, c'est évident. Quand on parle de quelqu'un qui est au chômage en Afrique, on parle surtout de quelqu'un qui travaille dans le secteur informel, qui travaille certaines fois beaucoup plus dur que s'il avait un emploi dans le secteur formel. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est capable, au plus haut niveau, mais aussi au niveau de chaque citoyen en Afrique, d'essayer de penser un avenir, d'essayer globalement de le penser? Où est-ce qu'on souhaiterait aller économiquement? Je vais prendre un exemple simple d'actualité. L'Afrique de l'Ouest, vis-à-vis de sa monnaie, veut s'autonomiser. Évidemment, ça se comprend. Mais si on veut autonomiser une monnaie, pour qu'elle soit solide, il faut un énorme secteur secondaire derrière. Est-ce qu'avec, on se donne les moyens de développer le secteur secondaire? Un petit exemple très simple. Au Nigeria, vers 1980, on produisait à peu près 50 000 véhicules par an. 40 ans plus tard, on en produit à peu près 10 fois moins. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce n'est pas des emplois qui sont allés forcément ailleurs. C'est une industrie qui tout doucement a disparu, qui n'a pas tenu le choc à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a des motos partout en Afrique. D'où viennent-elles? On le sait très bien, elles viennent largement de Chine. Pourquoi l'Afrique ne construit pas ses propres moyens de transport, dont elle a absolument besoin? Pourquoi les importe-t-elle de Chine? Alors qu'il y a une quarantaine d'années, l'équilibre était plutôt dans l'autre sens, où l'Afrique avait des capacités de production intéressantes qu'elle n'a plus maintenant. Je pense qu'on a raté quelque chose. Et quand vous parlez de 30 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail chaque année, c'est une question qu'il faut penser à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? On ne peut pas chaque année essayer de mettre des pansements sur un problème qui se crée, sinon on ne s'en sortira pas.
Alors justement, on va parler un peu de vos approches différentes et des projets que vous soutenez. Timothée Toury et puis aussi Virginie Lucas pour l'Agence française de développement. Vous pouvez continuer de nous appeler pour nous parler de vos parcours au 33 7 64 45 51 41.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Nous sommes en ligne avec Albert qui nous appelle de RDC, de Kolwezi très précisément. Bonjour Albert.
Bonjour, voisine, je salue tout le monde, les correspondants de RFI.
Eh bien, merci à vous. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Vous êtes aujourd'hui photographe. Oui. Racontez-nous un peu votre parcours. Je dois dire que ce n'est pas banal, mais vous en sortez plutôt assez bien aujourd'hui, Albert.
Ah, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas un secret.
Allez-y, on vous écoute, Albert.
D'accord, merci de m'avoir accordé la parole. En fait, il y a quelques temps que j'ai fini les études supérieures et universitaires. J'ai fait la psychologie appliquée, donc l'orientation scolaire et professionnelle. Je me suis lancé à la recherche de l'emploi. Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé. Et nous sommes environnés dans la ville de Kolwezi à peu près pas moins de 300, quelque chose comme ça, des entreprises minières de la place qui sont implantées, chinoises comme autres nationalités qui sont en train d'œuvrer à Kolwezi. Alors, je me suis lancé pour chercher de l'emploi, je n'ai pas trouvé. Cela ne m'a pas donné la peine de me décourager. C'est à travers un ami que je m'étais croisé, qui m'a intéressé pour me dire que non, j'ai fait la photographie. Est-ce que tu peux aussi être intéressé de ça? Je lui ai posé des questions, il m'a expliqué. Je lui ai dit que waouh, c'est vraiment formidable, je me sens intéressé. Il m'a orienté vers un centre, donc une direction, c'est un institut préparatif professionnel de l'emploi, donc qu'on appelle ONEM. Je suis allé, j'ai pris les renseignements, j'ai fait les inscriptions, j'ai fait la photographie pendant 3 mois là-bas. Mmh.
Vous avez payé pour cette formation ou pas, Albert?
Vous dites?
Vous avez payé pour suivre cette formation pendant 3 mois?
Oui, c'est payable pendant les 3 mois. Il y a des syllabus qu'on donne, il y a donc la documentation par rapport à, au domaine choisi, bien domaine poursuivi par les concernés. Quand j'ai terminé les 3 mois, j'ai fait encore pour le même ami là pour lui dire qu'il m'apprenne maintenant à faire la pratique, parce que là-bas on faisait même la pratique. Alors, c'était les matériels d'autrui qui sont disponibilisés pour les apprenants. Quand je l'ai suivi, il m'a dit, non, ça ne dérange pas, vous pouvez venir, nous allons travailler ensemble. Donc, quand il y a un événement de mariage, il y a quelque chose, il m'intéressait toujours. Il m'appelait, on partait au stade de foot, prendre des images, des photographies.
Aujourd'hui, vous arrivez à vivre de ce métier sans problème?
Aujourd'hui, je parviens à vivre de ce métier sans problème, mais parce que vu que les conditions de vie quand même à Covid-19 des fois sont passables, des fois ne sont pas passables, mais le fait là que je suis en train de toucher, ça suffit quand même pour...
Vous avez dit au standard que vous avez à un moment été enseignant et qu'un an de salaire d'enseignant, c'était une semaine de boulot de photographe pour vous. Donc, il n'y a pas photo, en effet. C'est le cas de le dire.
Tout à fait. Je me suis lancé dans la carrière enseignante. En tout cas, j'ai comparé ce qui a été conclu dans les contrats comme salaire mensuel et ce que je suis en train de trouver pendant la semaine dans la photographie. C'est vraiment... Et un grand écart. Alors, je me suis dit que d'abord, autant mieux d'abandonner l'enseignement et rester photographe pour me rechercher et trouver l'argent que je suis en train de trouver pendant la semaine dépasse ce que j'attendais tous les mois complets pendant l'enseignement.
Bravo à vous, en tout cas, Albert, et merci de nous avoir appelé de Kolwezi en RDC. Virginie Lucas, Timothée Toury, je voudrais qu'on revienne maintenant à vos approches. On a entendu plein de parcours, plein de témoignages d'auditeurs qui viennent aussi bien, d'ailleurs, qui ont complètement changé de braquet, hein, qui ont dû changer de filière pour finalement s'insérer professionnellement, y compris quand ils avaient choisi une filière très technique, hein, parce que finalement, l'emploi n'était pas au bout de la formation. Quelles sont vos approches respectives, Virginie Lucas, quand l'AFD finance des centres de formation technique? Comment vous faites pour que ça fonctionne, que ça débouche réellement sur de l'emploi? Alors, à travers quelques exemples concrets, rapidement.
On commence déjà par faire vraiment des études sur le bassin d'emploi. Quelle est l'activité? Parce qu'on est vraiment sur des approches très territorialisées. On travaille avec les États, mais les constats sont faits dans toutes les évaluations que c'est vraiment au niveau des territoires qu'on voit quel est le potentiel d'activité économique et vers quoi on a intérêt à s'orienter comme offre de formation professionnelle. Il y a tout un dialogue avec les collectivités locales, avec les représentants du secteur privé pour savoir ce dont ils ont besoin. Et dans cet écosystème-là, il y a aussi ceux qui sont entrepreneurs, il y a aussi ceux qui financent l'entrepreneuriat qui peuvent être utiles. Et donc, c'est vraiment cette approche avec tous les acteurs qu'on cherche à développer. Et puis, créer des formations qui ne soient pas uniquement, ça a été évoqué également, avec une pédagogie qui ne soit pas un enseignement, je dirais, top-down. C'est-à-dire qu'on fait pas de la formation professionnelle comme on enseigne dans un lycée général, par exemple. Il est clair qu'ils ont opposé tout à l'heure la théorie et la pratique. C'est vraiment cette logique qui a du sens. Et sur certains programmes, par exemple, je pense à des programmes d'apprentissage rénovés au Tchad, on a 20% d'enseignement, en tous les cas, en centre de formation et 80% en atelier ou en entreprise. Donc, c'est vraiment un changement de logique dans les compétences qui doivent être apportées et les compétences métiers. On essaye vraiment d'être beaucoup moins dogmatique qu'avant. Avant, il y avait l'approche par les compétences depuis 30 ans avec en 18 étapes. Bon, ça garde son sens intellectuellement, mais dans la pratique, on voit qu'il y a des compétences métiers et des compétences sociales à développer.
Au Mali, vous mettez en place des plateaux techniques pour former des jeunes, mais qui peuvent également servir à des PME dans le tissu économique local.
Oui, alors ça, ce sont des choses qu'on essaie de mettre en place et faire en sorte effectivement que ces centres de formation ne soient pas que des lieux de formation, mais qu'ils soient aussi des centres ressources pour les territoires dans lesquels ils sont.
Par exemple
on peut avoir au Cameroun, on peut avoir par exemple des centres de valorisation, transformation des produits agricoles dans lesquels les ateliers, lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour la formation des apprenants et des apprenantes, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de femmes et on n'a pas beaucoup entendu de jeunes femmes aujourd'hui, peuvent être louées ou être mises à disposition, ça dépend des cas, de petites entreprises ou de petits entrepreneurs, entrepreneuses de la région.
Donc
qui
ça
n'ont
peut
pas
être des machines, c'est ça, ça
c'est,
ces machines sont très coûteuses, des machines pour décortiquer, pour sécher par exemple des matières agricoles.
Tout à fait, mais c'est le principe des CUMA par exemple en France, hein, c'est de mettre en commun du matériel qui...
Mais ces machines, elles sont payées par qui ?
Alors, initialement, elles sont payées sur des fonds de l'État ou, dans ce cas précis, des fonds venus de l'Agence française de développement qui sont mis à disposition de ces centres de formation qui vont être gérés sur un partenariat public-privé.
Et dans ces cas-là, vous rapprochez aussi les entreprises utilisatrices de ces machines, des étudiants, futurs travailleurs dans ces entreprises.
Hein. Également, et voilà. Futurs stagiaires.
Et futurs stagiaires. Ah, on va en parler bien sûr des stages, je crois qu'il y a des questions là-dessus. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Lambert est au téléphone avec nous. Qui en a ? Oui, c'est Lambert. Oui, qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonjour Lambert.
Bonjour. 7 milliards de voisins.
Soyez le bienvenu, on vous écoute Lambert.
Oui, bon, nous sommes de l'Union nationale des mécaniciens professionnels de Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes là depuis 2011, ça va nous faire 10 ans bientôt d'existence. Nous avons travaillé un peu avec le gouvernement, de par le ministère de l'Environnement, du Transport, avec plusieurs ateliers en cours. Donc, nous avons un projet, depuis 10 ans, c'est élaboré, mais ce n'est pas suivi. C'est le centre de réparation spécialisée, qu'on appelle les CRS. Mmh. Nous avons voulu que cela soit dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire, comme le nombre de communes a changé. Donc au départ, nous avons pris 16 ateliers pour 197 communes et sous-préfectures. Mmh. Donc les 180...
Et ces centres qui forment des mécaniciens réparateurs, hein, si j'ai bien compris, sur le nombre d'années que vous avez cité, vous êtes parvenu à créer combien d'emplois ? Est-ce que vous avez une idée, Lambert ?
Parce que nous, pour créer ce type d'emploi-là, c'est pour faire sortir les jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle qui ont été formés par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc nous disons que si l'État de Côte d'Ivoire fait ce que nous avons sur papier ici, voilà. Et ceux qui sortent des centres-là peuvent avoir de l'emploi. Ouais. Parce que nous sommes une structure, c'est difficile. En association, c'est difficile en Afrique. Mm. Voilà. Les gens n'ont pas trop confiance parce qu'ils pensent que vous prenez leur argent pour aller vous rendre riche vous-même.
Et ce potentiel d'emploi, vous l'évaluez à combien, Lambert ?
Voilà, ce potentiel d'emploi-là, nous l'évaluons à 15 700 emplois. Cela fait 10 ans que nous avons fait ça-là. Ça, c'était dans le secteur de la mécanique de la réparation.
Si ces centres étaient réellement effectifs, ce qui n'est pas le cas d'après ce que je comprends, Lambert.
Voilà, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi votre émission, nous avons couru depuis hier pour pouvoir participer à cela, pour lancer ce projet-là.
D'accord, vous avez bien fait de courir. En tout cas, bienvenue, vous êtes bien en direct chez 7 milliards de voisins. Voilà un exemple très concret, hein, parce que c'est vrai que l'Afrique a besoin d'ingénieurs, mais aussi de mécaniciens, de techniciens, supérieurs ou pas. Timothée Toury, alors vous travaillez à travers l'Université technologique de Troyes avec des écoles d'ingénieurs, mais qui forment aussi des techniciens. Au Cameroun, au Sénégal, au Togo. Quelle est votre approche par rapport au manque de technologie sur le continent africain ?
La question qu'on se pose d'abord, c'est accompagner une école pour qu'elle trouve naturellement sa place dans le secteur africain. La difficulté qu'on avait rencontrée initialement, quand on a échangé avec les écoles, c'est que pour la majorité de ces écoles-là, former des jeunes, c'était prendre des programmes, généralement français, dus à l'histoire commune qu'on a, parfois anglais quand c'était des pays qui étaient plutôt de la sphère historique du Royaume-Uni, ils prenaient les programmes et puis ils les enseignaient sans forcément se demander Qu'est-ce qu'on forme? Qui est-ce qu'on forme? Pourquoi est-ce qu'on les forme? Donc, on avait des écoles qui parfois faisaient vraiment bien leur travail, mais qui formaient des jeunes pour le marché occidental. Donc, évidemment, ça ne colle pas. Et là, la question qu'on s'est posée avec elles, qu'on leur a posée, parce que c'est à elles d'amener la réponse, c'est qui voulez-vous former? Pourquoi? Quel est votre rôle? Et alors, quand on enseigne des choses comme les mathématiques, la physique, le génie mécanique, la thermodynamique, des choses qu'on peut enseigner dans une école, on va les enseigner différemment. Des écoles qui forment en réseau télécommunication, est-ce qu'on forme des ingénieurs qui vont pouvoir déployer des réseaux à l'occidental ou des réseaux dans le contexte africain qui n'a juste aucun rapport? C'est pas forcément souvent ce qu'on nous dit des ingénieurs dégradés, des ingénieurs de deuxième
c'est
catégorie.
C'est ce que j'allais dire. Si vous formez pour les besoins du continent africain, on va vous dire que c'est un enseignement au rabais, si ça ne peut pas s'insérer sur un marché mondial des compétences et de la matière grise.
Mais l'Afrique ne fait-elle pas partie du marché mondial? C'est la question aussi. Déployer des réseaux en Afrique, ça peut être parfois redoutablement plus difficile et compliqué que les déployer en Occident, tout simplement parce que l'environnement est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe. L'alimentation électrique, la stabilité des serveurs, un grand nombre de questions comme ça. En fait, on ne travaille globalement pas exactement avec les mêmes techniques, on ne travaille pas dans le même contexte, et ça veut dire qu'on doit avoir des ingénieurs qui pensent différemment.
Vos programmes, ils sont financés via l'agence Erasmus+. Comment vous faites pour mettre toujours plus de jeunes dans ces filières? Parce que les écoles avec lesquelles vous travaillez, que ce soit Polytechnique au Sénégal ou au Cameroun, ce sont de toutes petites filières, de toutes petites cohortes d'étudiants.
Oui, alors il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise non plus. Par exemple, quand on accompagne une école, on ne va pas décider évidemment de la politique à sa place. Et ce pourquoi Erasmus+ nous accompagne, c'est pour les aider à s'autonomiser. Cependant, parmi les établissements qu'on accompagne, là vous avez cité les écoles polytechniques au Sénégal et à Yaoundé, par exemple au Cameroun, il y a l'Institut Saint-Jean, à Yaoundé, et à Lucas Kikam, à Douala, qui sont des écoles qui ont trouvé leur propre modèle de développement. Alors, payant pour les étudiants, c'est vrai, mais en général, elles font vraiment l'effort nécessaire pour que ce soit aussi accessible que possible aux autres. Et ça permet d'offrir un peu plus de place avec généralement une formation de très très bonne qualité.
Je vous lis un message d'auditeur. Mafous qui est à Abidjan. J'ai terminé une licence de marketing. Je ne trouve pas de travail. Il y a vraiment un décalage entre l'école et la demande des employeurs. Du coup, maintenant, je suis une formation de community manager pour être sûr d'avoir du travail. Ben voilà, il a bien pris le virage, hein, Mafous. Il a tout compris. Et puis également, Frédéric est en ligne avec nous à Kinshasa. Bonjour Frédéric.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez une question très précise à poser à nos invités. On vous écoute Frédéric, il nous reste très peu de temps dans l'émission.
Exactement Emmanuel. Donc la question que je voudrais poser, c'est-à-dire ici chez nous, et par exemple au pays en République démocratique du Congo, nous avons des jeunes qui terminent des universités. Nous avons par exemple le cycle de graduat qui prend 3 ans et le cycle de licence qui prend 5 ans.
Oui.
Et ces jeunes qui terminent aujourd'hui là, après avoir consommé ces 3 ans, 5 ans, quand ils vont maintenant se lancer dans le marché d'emploi, on leur exige qu'ils doivent avoir exactement 5 ans d'expérience. Alors, à peine de sortir à l'université, cependant nous posons la question de savoir où est-ce que ces jeunes vont avoir ces expériences. C'est ça la grande difficulté que nous avons ici au pays, c'est trouver l'emploi. Je voudrais poser cette question et je propose en même temps la solution. Je dis, bon, au lieu de demander ces 5 ans d'expérience, il est question que ces entreprises qui recrutent commencent par organiser des tests d'évaluation pour sélectionner les meilleurs candidats à recruter. Mais cependant, ces entreprises commencent à nous poser des problèmes dont nous constituons aujourd'hui un grand nombre de jeunes dans le chômage.
Mmh.
Donc, voilà un peu la difficulté que nous sommes en train de traverser ici au pays à la République du Congo.
Ce que vous voulez dire, Frédéric, hein, merci pour votre appel de RDC. D'ailleurs, la problématique de l'expérience des jeunes qui sortent de leur formation, elle n'est pas spécifique à la RDC, on retrouve ça sur tout le continent, mais vous semblez accuser les employeurs et les entreprises d'avoir des exigences trop élevées, irréalistes par rapport à des jeunes qui sortent de formation. Virginie et Lucas, on a des entreprises, ceci dit, qui organisent déjà des tests de compétences quand elles ont vraiment besoin de recruter sur un marché du travail très tendu.
Oui, je pense que les choses évoluent, mais c'est vrai qu'il y a vraiment tout un plaidoyer à faire auprès du secteur privé africain pour qu'il ait plus confiance en fait dans le système de formation. Il faut quand même savoir que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des études qui montrent que c'est 2 jeunes sur 10 seulement sortant du système de formation de professionnels publics qui trouvent à s'insérer dans l'année qui suit leur sortie de formation. Donc, il y a un vrai sujet. Et en même temps, les entreprises nous disent la manière dont on forme ces jeunes initialement n'est pas forcément adaptée à la vie qu'ils vont avoir en entreprise. Donc, c'est vrai que toute la négociation qui peut se faire, et notamment au sein des branches et avec les organisations patronales ou avec les organisations artisanales, c'est vraiment de dire vous avez besoin d'un socle minimal de compétences techniques, quelles qu'elles soient sur ces emplois. Le reste, il y a aussi beaucoup d'une responsabilité de l'entreprise à former ensuite ces jeunes. Alors, c'est une responsabilité sociale, mais c'est aussi un sujet de productivité pour elles parce qu'elles ont besoin d'avoir des gens qui travaillent de la manière dont elles ont développé leur stratégie également. Donc, il y a un rôle pour les entreprises réelles au-delà du système de formation.
Timothée Toury, on arrive au terme de cette émission. Je vous laisse le soin de conclure par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Vous formez des jeunes dans des domaines très spécifiques d'ingénierie. L'Afrique aujourd'hui vend surtout ses matières premières. Est-ce que vous êtes confiant sur un continent qui va s'insérer sur un marché mondial de la matière grise avec des jeunes qui vont fournir des compétences dans les télécoms, dans le génie industriel, les réseaux, les énergies renouvelables, etc.
Je ne sais pas si je suis confiant, je souhaiterais l'être, et je le souhaite évidemment pour l'Afrique, pour toutes les écoles et les jeunes qu'on accompagne. Je pense qu'il faut aussi regarder, en plus de l'Afrique qui se développe pour elle-même, puisque c'est 30 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est une explosion démographique qui est en cours, il va falloir de la voirie, de l'agriculture, de la production d'une manière générale pour eux. Mais il faut aussi, si je me permets l'expression, que l'Afrique puisse prendre sa place au soleil, qu'elle puisse exporter des services par exemple. Juste un exemple. Il y a un grand savoir-faire en formation en mathématiques encore en Afrique. Un savoir-faire qui est assez intéressant, qui bien appliqué, bien formé ensuite, peut rentrer dans le domaine à l'heure actuelle de ce qu'on appelle les big data, les data sciences, où on manque d'ingénieurs, où on manque de techniciens. C'est un domaine où l'Afrique pourrait ne pas être que derrière, mais pourrait être aussi largement devant. Exporter un savoir-faire en big data. On n'y pense pas, parce que ce n'est pas forcément comme ça qu'on voit l'Afrique. Et pourtant, là, il y a vraiment quelque chose à faire.
Voilà, et bien merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission sur l'emploi des jeunes en Afrique. Merci Virginie Lucas de l'insertion. Vous êtes spécialiste de l'emploi, c'est insertion, emploi, entrepreneuriat. On n'a pas tellement parlé d'entrepreneuriat, mais on va en parler demain. À l'Agence française de développement, Timothée Toury, vous êtes directeur délégué de l'Université des technologies européennes, enseignant-chercheur à l'Université technologique de Troyes. Demain, 7 milliards de voisins, justement, suite logique de l'émission d'aujourd'hui, toujours dans le cadre du nouveau sommet Afrique-France. Quel avenir pour les PME du continent ? Reportage et débat sur leur financement, leur croissance et leur capacité à créer des emplois. Dans quelques instants, ce sera le journal et nous, on se quitte avec Candy Guira, Vie chère.
C'est fini.
l'heure sur